Noël n'arrive pas au même moment dans tous les différents endroits. Nous savons que en Ukraine, on fête le 6 et 7 janvier. Ici, nous fêtons le 24, soirée du 24 et le 25, ces différentes choses. Et puisque nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, nous allons aborder Noël un peu tôt cette année par un texte qui est dans Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25. Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25. Justin nous a partagé donc cette généalogie qui se trouve au début de Matthieu, de cet évangile, qui parle effectivement que Jésus, il se présente, il est né dans toute une histoire qui commence avec, donc ici, ça commence avec Abraham qui passe par David et puis arrive jusqu'à Joseph et la naissance de Jésus. Et nous allons voir à travers notre étude, évidemment, les enseignements de Jésus, mais Matthieu veut bien qu'on comprenne d'où Jésus est venu, quelle est son origine. Et cela serait important parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au début du christianisme, on attaquait souvent l'origine de Jésus, c'est-à-dire sa naissance. Il y avait certains rabbins qui plus tard parlaient de Jésus comme né de bâtard, c'est-à-dire à travers une relation en dehors du mariage. Il y en a d'autres qui mettaient en question aussi son origine au niveau de lieu, donc où il est né. Et ces choses, donc, ce sont des réponses à certaines questions que nous avons. Donc, Matthieu chapitre 1, les versets 18 à 25, va nous parler d'un certain Joseph et aussi d'un ange du Seigneur qui vient lui rendre visite. Je fais la lecture. Donc, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Ésaïe. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Bon, en lisant ce texte que nous connaissons assez bien, je crois que ce n'est pas la première fois que nous le lisons, en lisant ce texte, je crois qu'il y a certaines perles d'informations qui sont données et des choses qui sont franchement extrêmement intéressantes quand nous regardons le texte et tout ce que Jésus va commencer à faire. Quand vous lisez le texte en grec, le texte ne commence pas avec voici comment arriva la naissance de. Le texte commence avec l'histoire, disons, Jésus-Christ. Il commence avec de Jésus-Christ. Et les premiers mots que nous avons donc dans cette histoire, c'est les paroles, donc c'est Jésus-Christ lui-même, qui nous dit le centre de tout cet évangile se trouve en Jésus. Pas dans une autre personne, pas nécessairement dans la loi qui est donnée, mais le début de toute l'histoire, c'est Jésus-Christ lui-même. Et non seulement cela, quand vous regardez cela, le mot dans votre Bible, si vous avez voici comment arriva la naissance, ce que nous avons ici, c'est que nous avons le mot donc Genèse qui est utilisé. C'est-à-dire le Genèse, l'origine de tout cela, l'origine de tout cela commence en Jésus-Christ, C'est lui qui apporte l'évangile, c'est lui qui accomplit l'évangile et c'est lui qui offre l'évangile au monde. Donc, nous ne voyons pas cela en français, ni en anglais d'ailleurs, hein, qu'il dit, il commence avec Jésus-Christ, c'est comme cela que ça commence. Et deuxièmement, que nous avons le mot Genèse qui est là, qui veut dire un commencement. On entend bien dans notre texte, et ça, ça donne pas mal de confusion ici, parce que si nous regardons dans notre texte, nous voyons que la relation entre Joseph et Marie, c'est une relation de fiançailles. C'est une relation de fiançailles. Et n'oublions pas que Matthieu veut nous raconter une histoire qui a lieu dans un contexte et dans une culture. Et ce n'est pas notre culture et ce n'est pas notre contexte. Aujourd'hui, les gens qui disent, bah, c'est ma fiancée, ou c'est des fiançailles, on peut peut-être, on dit, bah, vous avez fixé une date pour quand? Ils disent, bah, pas encore. Okay? C'est l'idée aujourd'hui peut-être de vivre ensemble, de prendre au sérieux et d'envisager un jour le mariage. Mais il faut savoir que pour le juif, hein, dans ce contexte de temps et dans le contexte culturel et dans un contexte qui est réel, nous ne sommes pas en train de parler de notre réalité, mais comment ils ont vécu à l'époque. Et juste pour vous dire, ce qui est là n'est pas une fable. Ça a lieu dans un contexte historique. Et le contexte historique, c'est que à l'époque, souvent, il y avait le couple qui était formé très jeune, un peu comme Ben et Mariana, n'est-ce pas? Non, je rigole. Mais il y a des parents qui faisaient l'échange tout au début, qui promettaient que à l'avenir, cela pouvait se passer. Puis après, on passait par ce qu'on appelle les fiançailles. Et les fiançailles, c'était une promesse formelle et officielle. Les deux d'accord d'entrer plus tard, donc normalement en moins d'une année, dans une relation donc de femme, d'épouse et d'époux. Okay? Donc c'est cela que nous avons. Donc il y a la promesse qui est donnée et puis après il y a les fiançailles. Et à ce moment-là, c'est quelque chose de très sérieux et c'est quelque chose aussi qui dit, bon, maintenant il y a des droits communs entre les deux. C'est-à-dire l'homme attend de sa femme qu'elle soit fidèle à lui seulement, et elle peut attendre de son mari une protection, une fidélité aussi. Bon, cela avant, mais particulièrement aussi depuis le moment des fiançailles. Et vous savez qu'une fois fiancé, la seule manière d'annuler cela, ce n'était pas à travers dire, ah bah, on a décidé autre chose, c'était à travers un divorce. Il fallait donc donner une feuille de divorce pour dire, je ne prends pas cette femme en mariage, seulement annulé par le divorce. Et dans le texte, ils sont déjà connus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont déjà connus comme épouse et époux. Okay? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont déjà connus comme cela, mais sans avoir passé par la matrimonie. Ils ne sont pas encore passés par la cérémonie de mariage, ni à travers des rapports sexuels entre femmes, hommes et femmes. Et donc, c'est une situation qui est sérieuse et légale. L'homme et la femme sont liés à ce moment-là. Et c'est très important de comprendre cela parce que c'est totalement différent d'aujourd'hui. Oui, quand quelqu'un annonce les fiançailles et après ça s'est rompu après, c'est une chose qui est triste. Okay? Mais il n'y a pas de divorce aujourd'hui. À l'époque, c'était une tragédie. C'était un divorce donc qui avait lieu. Vous avez remarqué donc ici dans notre texte, nous avons tout du point de vue de Joseph. C'est-à-dire Joseph est l'acteur ici que nous avons et Dieu va donc agir sur sa vie. En Luc, vous avez quoi? Vous avez Marie. N'est-ce pas? Marie qui va voir l'ange, Marie qui va réfléchir sur ces choses et les garder dans son cœur, Marie qui va recevoir la parole de Siméon. Mais ici, nous avons Joseph et il y a une raison pour cela, parce que la généalogie que nous avons vue avant, c'est une généalogie de Joseph. Mais remarquons aussi bien que dans notre texte, Joseph n'est jamais mentionné en relation avec Jésus. Il est seulement mentionné en relation avec qui? Avec Marie. Okay? Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que d'aucune manière dans notre texte, Joseph est-il appelé le père de Jésus? Dans notre texte, l'essentiel, c'est de voir que Dieu lui-même est le père physique, si vous voulez, de Jésus-Christ. Non seulement le Père spirituel, non seulement le Père au niveau de son être, mais aussi ici, dans cette relation, c'est une relation, c'est Dieu qui va engendrer par le Saint-Esprit Jésus. Et ceci que nous voyons. Mais Joseph, quand même, est mentionné avec des termes qui sont très importants. Et c'est une des perles que nous avons. Il dit, c'est un homme qui est juste. Okay? Et cela veut dire que c'est un homme qui veut suivre la loi. Juste pour vous dire, dans Luc, il va dire que Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, étaient des gens justes et qui suivaient la loi. Et donc, il faut pas penser que tous les Juifs, ils étaient des pécheurs condamnés et tout. Ici, nous avons quelqu'un qui est juste devant Dieu. Et nous voyons que sa justice se manifestait sans doute par amour de la loi de Dieu. Mais non seulement cela, il montre sa justice, mais en même temps, il est rempli de grâce. Parce que dans la déception d'apprendre que Marie est enceinte, au lieu de la diffamer, c'est-à-dire publiquement, regarde ce qui se passe, et donc je vais le divorcer publiquement, il décide de faire cela discrètement. C'est-à-dire, il doit suivre les règles, il doit faire un décret de divorce, mais il va le faire d'une manière discrète. Et sans doute, cela voulait dire aussi, en rompant les fiançailles, c'était de donner un dot, c'était de donner de l'argent à la femme pour qu'elle pouvait continuer à vivre. Parce que dans le divorce, il y avait ce besoin de le faire si les fiançailles étaient rompues. Et donc, nous voyons cela. Vous voyez que on peut être dévoué à la loi de Dieu sans devoir demander une condamnation de tous ceux qui ne le suivent pas. Et ceci, nous voyons donc cette idée de justice et de grâce dans le cœur de Joseph. Et ceci est assez remarquable. Par la suite, donc, nous remarquons le travail du Saint-Esprit. Et c'est très intéressant aussi que nous sommes seulement au chapitre 1, mais on parle déjà du Saint-Esprit. Pendant que dans tout l'Ancien Testament, il y a dans un seul passage que nous avons les deux phrases mises ensemble, le Saint-Esprit ou Esprit-Saint. Seulement une fois dans l'Ancien Testament, c'est dans Ésaïe chapitre 63, si vous voulez le chercher. On a Esprit Saint. Alors, c'est vrai qu'on a l'Esprit qui est souvent mentionné dans l'Ancien Testament, okay? Le souffle de Dieu, le vent de Dieu. Par contre, ici, nous avons déjà au chapitre 1 l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu. Et ça va revenir, il va revenir, l'Esprit de Dieu, il va revenir plusieurs fois dans ce livre pour animer tout le ministère de Jésus. À tel point que l'Esprit Saint est l'un des acteurs principaux pour révéler qui est Jésus à travers le livre. C'est un esprit donc, cet esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui révèle la vérité. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui est actif dans la création. Vous vous souvenez, il dit le vent ou le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Le mot qui est utilisé, c'est le mot ruach, qui est traduit en grec par le mot pneuma, qui veut dire donc esprit. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et donc actif dans la création. Les psaumes reprennent cela. Par exemple, le psaume 104 reprend l'Esprit de Dieu qui fait partie de la création. Mais il y a quelque chose de très intéressant à voir, en tout cas je trouve, dans Ézéchiel chapitre 37. On va pas passer du temps là-dessus. Mais dans Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel a une vision d'un champ rempli d'ossements des Israélites. Okay? Des Israélites sans doute frappés par la punition de Dieu, montrés à travers les ennemis, les Babyloniens. Okay? Et qu'est-ce qui se passe à travers le vent et l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Ces ossements vont reprendre forme, des squelettes avec la peau, avec les muscles, et vont devenir des êtres vivants. Et l'idée que nous avons, c'est l'Esprit n'est pas simplement, ne joue pas seulement son rôle dans la création, mais aussi dans quoi? Dans la recréation. C'est-à-dire de rétablir Israël pour vivre près de Dieu. Et s'il y a quelque chose que Jésus veut faire, c'est de recréer Israël, c'est-à-dire de faire en sorte que Israël de nouveau revienne à Dieu à travers le Messie. Okay? Ce n'est pas pour établir de nouveau une nouvelle nation, ni d'avoir un règne politique, mais c'est de remettre par l'esprit la chair et les muscles et toutes ces choses sur le corps sec d'Israël pour que Dieu puisse agir en lui. Et donc, nous avons l'esprit qui révèle, l'esprit qui crée, mais aussi l'esprit qui recrée. Ceci est pris plus tard pour chacun de nous, même si nous ne sommes pas des Juifs, hein, qui est que nous sommes une nouvelle créature. Okay? Nous sommes appelés à vivre selon cela. Bon, Saint-Esprit, nous avons ici, comme j'ai dit seulement une fois dans l'Ancien Testament, que cet enchaînement Esprit-Saint est utilisé. Mais il y a autre chose qu'on trouve, ou quelqu'un d'autre qu'on trouve beaucoup dans l'Ancien Testament, c'est l'ange du Seigneur. C'est l'ange du Seigneur. Et je peux vous dire, quand l'ange du Seigneur frappe à votre porte, alors vous allez écouter. Hein? Vous allez écouter. Parce que l'ange du Seigneur, c'est la vraie présence de Dieu. C'est Dieu qui est présent. À tel point, qu'il y a des théologiens qui pensent que l'ange du Seigneur est la manifestation de Jésus avant son incarnation. Je crois que ce verset-ci prouve que c'est pas le cas. Okay? Jésus, malgré tout, ne pouvait pas être à deux endroits différents. C'est-à-dire au sein de Marie, et puis maintenant en train de se manifester à Joseph dans le songe. Mais bref, on dit c'est un songe et tout, mais juste pour vous dire, c'est à tel point on voit la présence de Dieu. Et c'est très intéressant que l'ange du Seigneur apparaît à des moments clés dans l'histoire d'Israël. Par exemple, Genèse chapitre 22, quand Dieu va donner encore une fois la promesse de l'alliance à Abraham, où l'ange du Seigneur va apparaître devant Moïse au Exode chapitre 3 et le buisson ardent. Okay? Donc là, tu vas libérer mon peuple. Ou Josué, avant de traverser, prendre la ville de Jéricho et de prendre Canaan pour le peuple d'Israël, Dieu qui apparaît dans l'ange du Seigneur. Vous comprenez? À des moments clés, l'ange du Seigneur arrive à des moments clés de l'histoire. Et c'est pour cela que l'ange du Seigneur arrive ici. Ce n'est pas simplement un Gabriel, ce n'est pas simplement un autre, mais ici nous avons donc là, c'est vraiment cette idée de présence de Dieu lui-même. Dieu se manifeste à travers son ange. Il a un songe. Qu'est-ce que c'est qu'un songe? Quelle est la différence entre un songe et un rêve? Ici, c'est l'idée de un rêve. Bon, ça vient, ça part, c'est pas clair, les images, on ne sait pas ce qui se passe. Ok? Un songe, c'est distinct, c'est clair. Chaque détail, on se souvient. C'est un message qui lui est donné et tout est clair pour lui. Et vous savez que c'est seulement en Matthieu, donc, que nous avons un songe. On a des visions ailleurs, mais c'est seulement ici que nous voyons cela. Et notons bien, il dit « fils de David », « Joseph, fils de David ». De nouveau, ceci est important parce que Jésus va accomplir une promesse à David d'être celui qui règne sur le trône pour l'éternité. C'est tellement sûr pour nous. Jésus est où maintenant? Il est à la droite de Dieu et il règne. Il est Seigneur des Seigneurs, il est Roi des Rois. Il est le Fils de David qui règne à la droite de Dieu. Et tout cela, donc, va commencer dans notre histoire. Et puis, juste une dernière chose, qui a donné le nom de Jésus? Est-ce que Marie ou Joseph ont songé, ils ont regardé, bon, il y a beaucoup d'Emma maintenant, il y a beaucoup de Gabriel, on va pas choisir cela, choisissons plutôt Jésus. Non, c'est pas cela, c'est Dieu lui-même à travers l'ange qui dit, et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et ceci est très intéressant parce que dans quelques mois plus tôt, qu'est-ce qu'un ange a fait? Il a apparu à Zacharie, et il dit, tu donneras à l'enfant le nom de Jean, qui veut dire l'aimer, n'est-ce pas? Okay? Donc, tu lui donneras le nom de Jean. Ici, c'est l'ange qui dit, donc c'est Dieu qui dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de Jésus à l'époque. Il y avait beaucoup de Jésus. Mais le nom, c'était Yeshua. Yeshua, c'est le mot hébreu pour, c'est Josué, dans l'Ancien Testament, c'est Yeshua, et Jésus donc devient son nom veut dire donc Yeshua. Ce mot veut dire, donc son nom veut dire, donc comme que vous savez, Dieu sauve ou Jéhovah sauve. Et l'idée ici, c'est que je donne un Messie et il sera appelé Yeshua. Bon, dans l'Ancien Testament, Yeshua a sauvé son peuple à travers quoi? La guerre. Josué, dans l'Ancien Testament, est un guerrier. C'est un guerrier. Jésus vient pour sauver, comment? Il vient pour donner sa vie, pour sauver les gens de quoi? De leur péché, il dit. Il sera leur sauveur. Il est venu pour les sauver de leur péché. Et le mot qui est là, la plupart d'entre vous le savez, mais le mot pour péché, ici, il va les sauver de leur péché. Le mot qui est là, c'est le mot de rater la cible. Okay? C'est celui qui prenait sa flèche et il tirait sur la cible et s'il allait à droite ou à gauche, il disait, j'ai péché. L'idée ici, c'est que Jésus vient pour pardonner le peuple de cette vie ratée, quoi. Qu'ils ne sont pas recentrés sur Dieu comme ils devraient être. Et notons bien, et ça je peux pas répéter assez souvent, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on entend aujourd'hui au niveau de l'évangile, mais notons bien, le problème principal ici n'est pas l'oppression politique, ce n'est pas les frontières d'Israël, ce n'est pas l'avenir de la nation d'Israël. Non, c'est que Dieu va effectuer le pardon pour Israël. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu comme sauveur. Il dit c'est aussi pour accomplir les Écritures. Et c'est une dizaine de fois que Matthieu va dire ceci et c'est pour accomplir les Écritures. Et cela nous transporte toujours dans Dieu qui est en train de sauver son peuple à travers son dessein. Matthieu, donc, va nous expliquer quel est ce merveilleux dessein de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce passage qui dit la jeune fille sera enceinte et va donc donner naissance à un garçon et on va l'appeler donc Emmanuel. Là, c'était le peuple d'Israël qui était entouré par ses ennemis. Et Ésaïe dit que il y a une jeune fille qui va devenir enceinte, elle va donner naissance à un enfant. Et donc, il parle d'une période de temps qui allait donc durer avant que le peuple de Dieu soit délivré de ses ennemis. Okay? C'est de cela qu'on parle. Mais quand Matthieu regarde ce que Dieu a fait pour sauver son peuple dans l'Ancien Testament, il dit la même chose se passe ici à travers donc Jésus. Donc, Dieu sauve et il est donc Emmanuel. Emmanuel, comme vous savez, qui veut dire Dieu avec nous. Bon, juste une dernière chose pour l'explication, et ça, c'est très important quand on discute avec nos amis catholiques qui parlent de la virginité perpétuelle de Marie. Ça veut dire la virginité perpétuelle de Marie ne veut pas dire simplement qu'elle était vierge quand Jésus est né, c'est-à-dire Jésus, donc elle était enceinte de l'Esprit Saint, mais qu'après, pendant jusqu'à sa mort, elle n'a jamais eu des rapports sexuels avec Joseph ni avec quelqu'un d'autre. Mais notre texte utilise une phrase qui est très intéressante qui dit jusqu'à ce qu'elle. Okay? Jusqu'à ce qu'elle. Et c'est aussi en négatif. Elle n'a pas eu jusqu'à ce qu'elle. Et quand on utilise un négatif, cela n'est pas passé jusqu'à un moment donné. Cela veut dire en grec que ça s'est passé après. C'est-à-dire, quand on dit un négatif hein, jusqu'à ce que, ça veut dire qu'après, c'était le positif. Okay? Et donc, il n'y a aucune raison de penser, en dehors des traditions qui sont quand même des traditions vieilles, okay? Mais il n'y a aucune raison de penser que Marie n'a pas donc commencé une famille avec Joseph. Et Matthieu nous montre cela, Matthieu chapitre 12, le verset 46, Matthieu chapitre 13, le verset 55, on parle de la famille de Jésus. Il n'y a rien dans le texte, rien, qui nous laisse songer que Marie a continué à être vierge jusqu'à sa mort. Il n'y a rien dans les évangiles, vraiment zéro dans les évangiles, qui nous permette de savoir ou de songer que Joseph avait des enfants d'une autre famille, peut-être sa femme est décédée, et que ses enfants sont les siens. Il n'y a rien, vraiment rien, qui nous laisse songer que les familles de Jésus qui est mentionnée après, ce sont des cousins ou autres. Okay. Tout nous laisse croire que Jésus est né d'une vierge par l'intervention du Saint-Esprit et qu'après, ils ont commencé leur vie comme une famille heureuse, comme un couple heureux. Mais on peut savoir toutes ces choses et louper le but du passage. Et je crois qu'il y a plusieurs choses. Première chose, évidemment, c'est l'origine de Jésus. D'où est-il venu? Et la réponse, c'est quoi? Il est venu de Dieu. Il est venu de Dieu. Dieu est à l'action. On appelle cela l'incarnation. C'est la parole faite chair qui habite parmi nous. Il va révéler Dieu. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, tout ce que nous avons ici, c'est que cette parole devenue chair habite par nous. Il vient de Dieu. Il loue Dieu et il va aller vers Dieu par la suite. Et comment lire ce passage sans penser que Dieu garde ses promesses? Que Dieu garde ses promesses. Comme il a fait à Abraham, comme il a fait à Moïse, comme il a fait à Josué, comme il a fait à David, il garde ses promesses à travers la personne de Jésus. C'est l'histoire de l'avènement du Christ ici. C'est l'histoire de son entrée dans notre monde et le fait que cela a bouleversé le monde et nous a amenés à lui. Et là, nous avons aussi la définition du rôle de Jésus. Bah, qui est-il? Il a le rôle du Messie, mais il a le rôle du Sauveur, de sauver les gens, les Juifs d'abord, de leurs péchés. Et puis après, ensuite, ceux qui ne sont pas Juifs. Il est venu pour sauver les gens de leurs péchés. Et on ne peut pas faire autrement que d'être admirant, mais vraiment admirant, de l'obéissance des autres acteurs. Bon, sans parler de Marie, mais ici, le dessein de Dieu se déroule dans un contexte d'obéissance complète de Joseph. Il accepte la volonté de Dieu dans sa vie. Et il accepte ce que Dieu lui demande à faire. Mais pourquoi fait-il cela? Parce que c'est un homme juste et un homme rempli de grâce. Des hommes justes et des personnes remplies de grâce sont ouverts à la direction de Dieu. Ils vont écouter ce que Dieu a à dire. Dans notre texte, c'est Joseph. Dans l'évangile selon Luc, c'est Marie. C'est aussi Zacharie, c'est Élisabeth. Toutes ces personnes, parce qu'ils sont justes et remplis de grâce, s'ouvrent à la direction de Dieu. Et ils vont dans cette direction. Et j'aimerais bien qu'on sache aujourd'hui, c'est l'origine de notre foi, c'est cette histoire de Jésus-Christ. Que Dieu est en train d'accomplir ses promesses en nous quand nous acceptons Jésus comme le Christ. Et donc, il faut vraiment que nous l'acceptions comme Dieu avec nous. Et que le rôle qu'il doit jouer dans notre vie, c'est le rôle de nous sauver de nos péchés et de nous diriger jour après jour comme Seigneur. Il demande notre obéissance. Il demande qu'on marche avec lui. Il demande que nous examinions nos vies à la lumière des Écritures et que nous décidions de laisser en arrière certaines choses pour aller vers l'endroit que Dieu a préparé pour nous. C'est exactement ce que Joseph fait. Et grâce à son obéissance, cette histoire peut avoir un happy end. Cette histoire nous amène donc au salut. Cette histoire nous amène à l'accomplissement du dessein de Dieu.